Alors Louis Bélanger, ça fait donc quelques années que vous vous intéressez à tout ça. Vous pouvez nous parler un petit peu de vos enquêtes sur le terrain. Moi, j'aimerais vous entendre parler des cas qui ont particulièrement retenu votre attention et qui font que vous posez encore des questions, parce que tous les parapsychologues ne sont même pas d'accord sur la réalité de l'ensemble des phénomènes parapsychologiques. Il y en a qui pensent que la télépathie, bon d'accord, on peut y aller, mais enfin les torsions de métaux, pas du tout, etc.
Oui, comme le disait la chanson tout à l'heure, celle qui vient de passer, là, « I want to see » ou « I'm gonna see », »,« je vais voir », »,« je veux sentir », »,« je veux toucher les choses », c'est ce qui est arrivé à Freiburg. J'ai eu l'occasion justement de, comme l'institut du professeur Hans Benda est spécialisé sur les cas de hantise qu'on dit liés à des jeunes personnes, c'est-à-dire les cas de poltergeist, là, qui vient de l'allemand Geist, esprit, polter, tapageur ou frappeur. Mm-hmm. C'était une expression employée par Luther pour désigner au sens propre ces petits esprits malins qui viennent s'amuser aux dépens des vivants. On a gardé le terme en parapsychologie, mais on ne retient plus l'interprétation de Luther. On suppose, lorsque ces phénomènes-là existent, qu'ils sont déclenchés non pas par un démon, mais plutôt par des êtres vivants qui sont les agents déclencheurs des phénomènes. Mmh. Alors, j'ai eu l'occasion de faire 17 enquêtes sur le terrain pendant mes 6 années en Allemagne. Et pour moi, les cas de poltergeist sont les plus impressionnants. Parce que, d'abord, on arrive dans un milieu... Enfin, en général, c'est comme ça que ça se produit à Freiburg. Puisqu'il y a un institut de recherche, la population fait appel aux responsables de l'institut, aux chercheurs, pour venir les délivrer d'un mal qu'ils sont en train de subir, c'est-à-dire des coups frappés, des objets qui bougent et qui volent, des portes qui s'ouvrent et se ferment, quelquefois apparition d'eau sur le plancher ou même au deuxième étage, sur les lits, apparition de feu, c'est beaucoup plus rare. Mm-hmm. Alors ce genre de phénomène-là, donc, que les gens subissent, et après avoir essayé, peut-être auprès du curé de la paroisse ou auprès d'un radiesthésiste, de se libérer de ces phénomènes-là et sans succès, eh bien, ils font appel au parapsychologue, c'est la dernière chance.
Oui.
Alors donc, j'ai eu l'occasion avec Hans Bender de... au départ, je l'accompagnais toujours pour apprendre de vivre certains de ces phénomènes-là. Je me souviens à Pursrook, à la frontière tchécoslovaque, c'était en 1971. Et se produisaient des cas, des phénomènes de coups frappés, les portes aussi qui s'ouvraient et se fermaient, des petits tapis qui se roulaient et se déplaçaient. Ils n'étaient pas volants, ceux-là. Mmh. Et,
vous avez assisté à tout cela, là, tout ce dont vous parlez?
Non. Alors moi, j'ai vécu les coups frappés.
Oui.
Ça, je les ai entendus, je les ai objectivés aussi avec magnétophone. Mmh. J'ai pu voir en même temps que les enfants ne manipulaient pas. Dans ce cas en particulier, je n'ai vécu que les coups frappés, pas de déplacement d'objets.
Oui.
Et... bon, alors, d'après nous, le déclencheur était une jeune fille qui s'appelait Helga, qui avait 13 ans et qui vivait des tensions très fortes avec son père et sa mère, parce que c'est son père qui la battait très souvent, mmh. Alors, pour des raisons qui seraient trop longues d'énumérer ici. Et avec l'accord des parents, nous avons amené Helga et Anna en Forêt-Noire, à l'Institut de Freiburg, et aussi pour les faire se détendre un peu juste sur la montagne qui s'appelle le Schauinsland, tout près de Freiburg. Et là, on a pu passer à des tests, mais à des tests de psyesthésie, de psychinésie, et ensuite les faire arriver à se détendre. On a eu une relation aussi, naturellement, avec les parents, avec le père en particulier, mm-hmm. pour que les phénomènes cessent. Parce que là, c'est là qu'est le problème. Mm-hmm. Dans notre recherche, on parlait tout à l'heure du peu de fond qu'on a, mais il y a un autre problème qui se pose aussi. Le psychologiste ou le parapsychologue est chercheur. Il est intéressé à observer un phénomène le plus longtemps possible, naturellement, à porter ses appareils et aller voir se produire devant les appareils, à les documenter, donc, pour aller au-delà de l'illusion, de l'hallucination,
oui.
pouvoir rapporter ensuite à la communauté scientifique ce qui s'est produit. Mais les gens qui nous appellent, qui sont en situation de besoin, veulent se débarrasser des phénomènes. Alors là, il y a un conflit d'intérêts. Les parapsychologues qui veulent voir se produire un phénomène et les gens qui veulent le voir cesser. Alors, il s'agit d'arriver à un compromis qui souvent est rencontré, c'est-à-dire que les gens voient qu'ils ont intérêt à ce qu'on objective le phénomène, au moins pour les disculper devant une population incrédule ou une population, souvent c'est dans des petits villages, qui les considèrent comme des charlatans, des fraudeurs, des sorciers, en quelque sorte. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ils ont intérêt à ce qu'on objective les phénomènes. Mais on peut les objectiver seulement pendant quelques temps, quelques heures ou quelques jours, au plus. Et après, il faut passer à l'exorcisme. Et là, je l'emploie entre guillemets, évidemment. Nous sommes les sorciers, en quelque sorte. Ils croient aux recherches qu'on fait. Ils croient en nos capacités de faire cesser le phénomène. On le fait par une thérapie de relaxation, etc. Et souvent, les phénomènes cessent. Alors, il faut les faire cesser. Et c'est là le conflit de la fonction du thérapeute parapsychologue et du chercheur parapsychologue. Les deux sont contradictoires.
Et à mis à part cet événement-là qui s'est produit à la frontière tchécoslovaque, vous avez assisté également à des phénomènes plus spectaculaires ou des...
Déplacement d'objets. J'entendais les coups frappés, là, mais un déplacement d'objets, ça a été un coupe-cigare qui s'est déplacé là, d'une table vers une porte de patio. Ça, c'était dans la Ruhr à Oberhausen. C'était un jeune... apprenti plombier qui était le déclencheur des phénomènes. Et là, c'était très, très violent. J'ai failli laisser ma peau, d'ailleurs. Le jeune était tellement perturbé qu'un bonsoir, il essayait de me gazer dans la chambre où je dormais. Voilà. Chez les grands-parents, où se produisaient les phénomènes. Mais j'ai ouvert la fenêtre et puis voilà, ça s'est passé.
Dites-moi,
perdu mon sang-froid.
Mais alors, est-ce que vous pensez, vous, puisque vous faites, je disais tout à l'heure, des ciné-conférences, c'est que non seulement vous avez un enseignement universitaire, mais vous parlez aussi au public, vous allez à la rencontre du public pour parler de tout ça. Vous pensez que c'est bien ou que c'est mal? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais finalement, est-ce que c'est...
Oui? Ben justement, je trouve que c'est ce qu'on doit faire. Voyez-vous, je pense qu'en France, c'est aussi un problème. La hiérarchie est beaucoup plus importante chez vous que chez nous, la hiérarchie universitaire. Vous avez des pontifs qui sont dans leur tour d'ivoire et qui y restent, évidemment. Ils ont plus de chance d'y rester en n'allant pas sur le terrain, parce qu'autrement, on pourrait les remettre en question. Et je pense qu'il est très important d'aller sur le terrain, d'écouter ce que les gens nous racontent. Vous savez... L'existence des phénomènes psy, la recherche sur les phénomènes psy, je ne pense pas qu'on doit la faire à partir d'une observation peut-être même aléatoire, une observation de courte durée d'un phénomène comme la torsion de métal. Mmh. Je pense qu'il faut, au départ, répondre à des besoins de la population. On a passé une enquête ici, l'enquête Gallup au Canada. En 79, c'est la dernière, où on constate qu'il y a 54% de la population qui croit en l'existence de ces phénomènes-là. Alors écoutez, les chercheurs dans les universités, ils reçoivent leur argent de la population. C'est les gens qui payent par leurs taxes pour la recherche. Alors, à ce moment-là, il faut quand même leur rendre d'abord se pencher sur leurs propres besoins, sur ce qu'ils nous racontent, et ensuite essayer de répondre à leurs questions. Pas leur dire que ce sont des nonos et puis des rêveurs en couleur, mais essayer de leur donner des réponses beaucoup plus intelligentes. Alors, pour ça, il faut se déplacer. Et il faut... Ce que j'ai fait dans mes ciné-conférences, je ne faisais pas qu'à faire une approche magistrale en avant puis dire « voilà la vérité, mes petits amis », mais c'était en même temps d'abord de répondre à leurs questions après la ciné-conférence elle-même. Et puis ensuite, j'ai passé un questionnaire et il m'en est revenu plus de 2000 à la maison. Et de gens donc, qui racontent, vivent ce genre de phénomène-là. Alors, on ne peut pas rester froid lorsqu'on écoute ce que les gens nous racontent. Et ne serait-ce que par le biais de l'hygiène mentale ou de l'hygiène psychosociale, on devrait s'intéresser à ce genre de phénomène-là. Pas pour essayer de vérifier une quincaillerie ou voir ce que font les tortionnaires du métal, parce que ça, vraiment, c'est seulement quelques personnes qui prétendent pouvoir faire ce genre d'exploit-là. Mais l'ensemble de la population rapporte quand même vivre des rêves prémonitoires, de la télépathie, la clairvoyance, etc. Alors, il faut y répondre. Donc, sortir de sa tour d'ivoire, aller oser dire quelles sont nos interprétations des phénomènes, se faire entendre autre chose de la part de la population, la réplique, et puis ensuite, on a une communication féconde à ce moment-là. Et ça devient de la science.
Je vous rappelle que notre numéro de téléphone est le 524-7000. Si vous avez des questions à poser à Louis Bélanger, là pour l'instant on les engrange un petit peu, mais je vais les lui poser dans quelques minutes. Alors dépêchez-vous, c'est maintenant.
Oui.